Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous mes amis d'un brin d'histoire. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon propos « D'Artagnan, fils de Gascogne ». J'ai choisi de vous parler de ce simple maréchal du roi Louis XIV qui est devenu, grâce à la littérature, le plus grand héros d'aventure de cap et d'épée et le plus illustre des fils de Gascogne. La renommée posthume de ce capitaine des mousquetaires égale aujourd'hui celle des plus grandes célébrités de notre histoire. D'Artagnan est devenu aujourd'hui un personnage légendaire. Il y a 180 ans, paraissait le fameux roman d'Alexandre Dumas, « Les Trois Mousquetaires ». Nous disons tous que D'Artagnan doit sa gloire à Dumas. Mais, en réalité, Dumas a construit son œuvre sur des récits fournis par un auteur de chroniques, Gastien Courstil de Sandras. Celui-ci avait 26 ans lorsque mourut D'Artagnan en 1673. Courtil avait publié en 1701 les mémoires de Monsieur d'Artagnan. Cet ouvrage romancé oublié sera repris par Dumas, le copiant, le pillant, sans vergogne. Courtil savait parler de personnages dont l'existence paraissait mystérieuse. Pourtant, il était au courant de tout ce que se passait dans la cour. Troisville, Athos, Porthos et Aramis ont donc réellement existé et appartenu au corps d'élite des mousquetaires du roi. Le premier, Troisville, s'appelait Arnaud du Peyrère. Il fit une brillante carrière, se fit appeler seigneur de Troisville de Peyret, baron de Montory. C'était le capitaine de la compagnie des mousquetaires. Il était d'Oloron Sainte-Marie. Armand de Silègue d'Athos, parent du précédent, tirait son nom du village près de Sauveterre dans le Béarn. Rien à voir avec le titre que lui confère le roman du comte de La Fère. Il mourra à Paris en 1643. Porthos, c'est Isaac de Portau, de modeste famille, fils d'un Béarnais, mais on ne sait pas ce qu'il devint ensuite. Henri d'Aramitz est aussi cousin de Troisville. Il portait le titre d'écuyer et d'abbé laïque d'Aramitz, de la vallée de Barétous. Enfin, D'Artagnan est le seul Gascon. Il portait un nom magnifique. Il s'appelait Charles de Batz. Son bisaïeul, un riche marchand de Lupiac, avait acheté la maison et terre de Castelmaur au milieu du XVIe siècle. La famille Batz réussit. Elle avait des prétentions à devenir noble, ceci en s'alliant avec les Montesquieu, eux-mêmes proches des comtes d'Armagnac. Elle y parvint. La famille se composait de 7 enfants, dont le cadet, Charles, qui naquit entre 1610 et 1620, et qui est notre héros. Charles de Batz naquit certainement au château de Castelmaur. Ce château, de dimensions restreintes, est pourvu d'un seul étage. Il est flanqué de 4 tours. Il est assis au sommet d'une colline, sur la ligne de partage des eaux de l'Adour et de la Garonne, dans le canton d'Aignan, noyau primitif des comtes d'Armagnac. Il domine 2 vallées profondes où coulent la Douze et la Gélise, en fond de toile des Pyrénées. Mais en ces années 1620, les Batz perdent leur large aisance financière suite à des procès de contestation de titres. Perdant ainsi leurs privilèges, seule la carrière militaire pouvait redonner honneur et fortune. Aussi, beaucoup de ces jeunes partaient avec un modeste bagage, mais ils savaient se servir de l'épée. Pour monter à Paris, les registres notariés indiquent qu'il fallait 250 livres, ceci pour s'armer, s'équiper d'une monture et assurer le voyage. Le corps d'élite de la maison du roi étant peuplé de compatriotes pleins de courage et de bonne humeur. Courtils nous donne des informations véridiques sur le voyage de Charles de Batz. Il serait parti sur un bidet de 22 francs avec 10 écus en poche et, à 3 lieues de Blois, il aurait eu une querelle avec un gentilhomme qui avait souri de son médiocre équipage. À Paris, il pénètre dans le dédale des rues étroites. L'encombrement des charrettes, la foule l'inquiète. Perdu, il demande son chemin et s'arrête à l'hôtel du Gaillard-Bois, ceci rue des Fossoyeurs, près de Saint-Sulpice. 3 villes habitaient tout près. Dans la réalité, nous sommes en 1640. Dumas a placé la scène 15 ans avant pour parler du siège de La Rochelle et les déboires des mousquetaires du roi avec ceux de Richelieu et de l'aventure d'Anne d'Autriche et Buckingham. Tout cela est inventé. Courtils affirme que Charles de Batz entra en qualité de cadet au régiment des gardes dans la compagnie des Essarts. Cela est certain, car des Essarts était le beau frère de Troisville, à qui d'Artagnan a été recommandé. Le régiment des gardes était composé de 32 compagnies de 300 hommes. En 1640, 8 compagnies se trouvent en Italie, les autres à Arras. Ensuite, il y a le siège d'Aire-sur-le-Lys, de La Bassée, de Bapaume, de Collioure et Perpignan. Charles de Batz fut de toutes ces campagnes. Les gardes, rappelés auprès du roi Louis XIII mourant, n'assisteront pas à la victoire de Rocroi le 16 mai 1643. Nous n'avons pas non plus de preuves du voyage en Angleterre de D'Artagnan. Il retourne se battre, ensuite dans les Flandres, en 1644. Et, de cadet des gardes, il rentre dans le rang des mousquetaires et fait la campagne de Flandre en 1645. Troisville le rappelle ensuite d'urgence à Paris pour assurer la protection de Mazarin. Il sera avec Besmont jusqu'à la mort de Mazarin, les agents de sa subtile politique. Lorsqu'en 1651, Mazarin est forcé de quitter la France, D'Artagnan lui sert d'émissaire auprès de ceux qui lui sont restés fidèles, la reine. Et la reine intervint pour faire nommer capitaine D'Artagnan. En 1654, il escorte le jeune roi pour son sacre à Reims. En 1654 aussi, les gardes furent envoyés à Stenay, où D'Artagnan fut grièvement blessé. Rétabli, il sera au siège de Landrec, Saint-Ghislain et Condé. En 1656, à celui de Valenciennes. En 1658, il se trouva devant Dunkerque, lorsqu'il passa lieutenant dans la compagnie du jeune roi Louis XIV. Le roi avait doté sa compagnie d'habits écarlates, brodés d'or, boutons dorés, chapeaux galonnés, croix blanche, fleurs de lys, avec des flammes rouges et argentées. D'Artagnan se trouva en rapport constant avec le jeune roi. Il devint une des personnalités les plus populaires de Paris. D'Artagnan habitait rue du Bac, en bordure de la Seine, ami de Madame de Sévigné et des personnalités du Marais. Ayant atteint la quarantaine, il s'unit en juste noces avec Charlotte Anne de Champlecy, jeune veuve. Mais il renonça pas à ses habitudes d'indépendance et à ses maîtresses. Malgré la naissance de deux fils, le couple se séparera en 1665. En 1659, Mazarin négociait avec l'Espagne la paix des Pyrénées. D'Artagnan accompagna le roi à Saint-Jean-de-Luz pour y célébrer le mariage avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Le cortège passa à une lieue de Castelmaur. Sûr que D'Artagnan s'y arrêta, la cour coucha, elle, à Toulouse. Le 26 août 1661, le roi quittait Fontainebleau pour Nantes. Avec Fouquet, D'Artagnan fut accablé par une forte fièvre. Le roi alors lui intima l'ordre d'être guéri dans les 3 jours. Il s'agissait d'arrêter Fouquet. L'arrestation de Fouquet fut une épreuve terrible pour les deux hommes. D'Artagnan sera le geôlier de Fouquet. Il le suivra partout où il sera amené. Angers, Vincennes, la Bastille. Humain, D'Artagnan autorisa Madame Fouquet et son enfant à l'embrasser en traversant Charenton. Après le jugement, le 20 décembre 1664, D'Artagnan conduisit Fouquet par Lyon et Grenoble à la forteresse de Pignerolles, où il mourut 15 ans plus tard. Dès lors, le roi lui confia la haute main sur les 2 compagnies de mousquetaires. Le roi ajoute aussi le titre de capitaine des petits chiens courants, le chevreuil, et de brigadier de cavalerie. Après 3 ans à Paris, en 1671, le roi confia à D'Artagnan d'assurer la garde d'un prisonnier d'État, le beau Lauzun, le grand amour de la grande mademoiselle. Lui aussi fut conduit à Pignerolles. Le 15 avril 1672, il reçoit l'ordre de commander la place de Lille. Les travaux de Vauban transforment la ville qui doit devenir la capitale des Flandres françaises. Lorsque D'Artagnan retrouve ses mousquetaires, ils combattent devant Maastricht. La place est prise le 10 juin 1673, mais une contre-offensive l'oblige à reprendre le combat. Alors, Une grêle de balles lui donne la mort. Cette fin héroïque eut un retentissement dans toute l'Europe. Le roi fit l'éloge de ce grand serviteur. Et voici l'épitaphe que l'on nota. D'Artagnan et la gloire ont le même cercueil. Ce Gascon de chez nous est bien représentatif des grands hommes de notre histoire. Homme de devoir, humain, doué de tact, de sensibilité, de fidélité à son roi. Dumas en a fait un héros de cape et d'épée, un aventurier sympathique, querelleur, qui se distingue du véritable D'Artagnan que nous connaissons. Mais le roman de Dumas a fait sortir de l'oubli le personnage. Nous nous devions de parler de ce Gersois, enfant de Castelmaur, qui par la littérature romancée d'un talentueux Dumas est redevenu une gloire nationale. Je vous remercie et à la prochaine édition. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.